R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonjour Quentin, merci de nous recevoir à la Maison de la Poésie à Rennes, voilà, au bord du canal, avec un peu de travaux, mais toujours aussi de la verdure tout autour de nous. Je voulais te demander de nous présenter un peu la Maison de la Poésie, un peu son histoire avant de venir au projet que toi tu viens de reprendre et que tu es en train de développer actuellement.
Merci de m'accueillir sur la radio. Alors la Maison de la Poésie, c'est une association qui existe. Alors c'est un peu... flou, je ne pourrais pas dire exactement la date, mais en gros, la création de l'association est aux alentours des années 2000. Alors, il y a des dates qui disent 97 et puis d'autres un peu plus tardives. Je sais que l'association, en tout cas, elle est installée ici depuis 2004. Alors, je n'ai pas tous les détails de l'histoire parce que les archives n'ont pas été très bien gardées. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au départ, donc cette villa, qui s'appelle la Villa Beau Séjour, appartenait alors à un ancien, à un boulanger qui vivait à Rennes. Et à son décès, la ville l'a récupéré. Et plusieurs associations du livre ont voulu se réunir pour avoir un lieu à elle, à Rennes, pour défendre les écritures contemporaines. Et en fait, initialement, la Maison de la Poésie, s'appelle, le nom statutaire, c'est Beau Séjour Maison de la Poésie, mais réunissait 5 associations, si je ne dis pas de bêtises, et des associations qui étaient dans des genres littéraires différents. Donc Maison de la Poésie pour la poésie, mais il y avait aussi de la bande dessinée, du livre, roman, etc. Et puis au fil des années, des associations se sont dissoutes. Et aujourd'hui, dans la Maison de la Poésie, il ne reste que 2 associations. Donc la Maison de la Poésie et une autre association qui s'appelle La Balade des Livres, qui a juste un local dans la maison. Initialement, la maison a été créée par, entre autres soutenue et créée, alors je ne sais pas trop comment ni pourquoi encore une fois, par 3 entités fondatrices qui sont l'Université Rennes 2, le Triangle et la Balade des Livres, et qui donc aujourd'hui ont un rôle un peu plus important, statutaire dans l'association. Donc la maison s'est faite avec des personnes passionnées de littérature et de poésie au départ. Qui donc ont organisé petit à petit des événements. D'abord, il y a eu un festival, ce festival a perduré tous les ans. Et puis, en plus du festival, il y a eu des rencontres ponctuelles qui ont été ajoutées, puis des résidences, etc. Et puis, le projet s'est développé petit à petit. L'association a eu la chance, en plus du lieu, d'avoir une dotation aussitôt de la ville, avec un soutenu pour le projet, ce qui a permis d'embaucher aussi des salariés assez rapidement. Et donc ça, je pense que c'est aussi une des choses qui a fait la pérennité de l'association, puisque peut-être 2 ou 3 ans après la création de l'association, il y avait déjà des salariés dedans. Donc, et des salariés qui sont restés très longtemps, même s'il y a eu plusieurs équipes. Et jusqu'à mon arrivée, donc l'association était essentiellement construite artistiquement par le conseil d'administration, et l'équipe salariée était plutôt chargée de mettre en place le projet artistique. Et en dehors de ça, l'association n'a pas beaucoup bougé finalement dans le lieu. Enfin, le lieu est toujours resté un peu le même. C'est plutôt autour de la maison que les choses ont changé. Mais le lieu est resté sensiblement le même, avec des espaces équivalents. Et je vais plutôt dire que c'est les projets, en fonction des équipes qui ont... des personnes au conseil d'administration, des projets artistiques qui ont évolué au fil du temps.
Et alors du coup, ce conseil d'administration, il est composé de quel type de profils? Sont des auteurs qui sont rassemblés autour de la maison, ou c'est d'autres types de profils de la chaîne du livre ou extérieurs à la chaîne du livre?
Alors avant mon arrivée, je dirais que c'était plutôt des auteurs. D'ailleurs, à la fondation de la Maison de la Poésie, c'était quand même essentiellement des auteurs de poésie qui l'ont créé. Et petit à petit... les choses ont un petit peu changé. Alors il y a eu aussi des éditeurs, des universitaires qui sont venus aussi. Généralement c'était quand même plutôt des personnes de la chaîne du livre. Par exemple, il y avait aussi des gens qui faisaient de la reliure. Essentiellement c'était quand même des gens qui écrivaient, qui aspiraient à écrire. Des enseignants aussi beaucoup. Et donc c'était quand même plutôt des professionnels au départ qui finalement se sont structurés pour faire cette association, plutôt que des amateurs de poésie. Enfin, c'était des amateurs de poésie, mais qui en écrivaient aussi, quoi.
Et du coup, avant de nous parler même du projet que toi tu souhaites développer, qui aussi implique peut-être d'autres générations d'auteurs et d'autres perspectives sur la poésie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce paysage de la poésie, bon, peut-être de la littérature plus largement et plus spécifiquement de la poésie à Rennes et en Bretagne que tu, voilà, que tu pratiques aujourd'hui, peut-être que tu connaissais aussi avant.
Alors moi, je viens plutôt personnellement du roman. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé à la Maison de la Poésie, c'était pas forcément un genre que je... Enfin, j'avais certaines lectures, mais c'était pas un genre dont je maîtrisais bien le paysage éditorial. Et alors, je suis pas forcément... Bon, c'est... on peut pas être objectif, mais je suis pas forcément très laudatif avec la poésie en Bretagne. Alors historiquement, elle a une très grande place. Enfin, voilà, on pense à tous les poètes, les poètes de la mer, les poètes de ce champ esthétique-là. Des gens comme Xavier Gral, par exemple, voilà, qui ont une influence quand même qui est assez colossale, surtout sur toute la zone Finistère. Mais bon, et on sent que cet héritage-là est encore beaucoup là. Je dirais un peu comme les aquarellistes de Marine, voilà, sur certains paysages. En fait, on garde cet état d'esprit. On a quand même des maisons d'édition qui font du très bon travail, je veux dire, en termes de qualité d'objet et de publication. Je pense aux éditions Isabelle Sauvage, je pense aux éditions Follavoine. Voilà, pour celles qui sont installées ici depuis le plus longtemps, qui contribuent à faire de la poésie en Bretagne un genre estimé. En librairie aussi, il y en a quelques-unes, même si malheureusement ça tend à se raréfier. Et finalement, c'est plutôt des librairies qui sont... il n'y en a pas beaucoup qui défendent la poésie en Ille-et-Vilaine. Je dirais plus qu'il faut aller dans le Finistère, encore une fois, ou dans le Morbihan. Donc la poésie reste quand même un parent pauvre en Bretagne, je trouve, même si fatalement plein de gens me diront le contraire, et c'est très bien, hein, voilà, je pense que c'est aussi ma vision par rapport à certaines esthétiques qui moi me parlent plus et qui j'ai l'impression ne se retrouvent pas du tout ici. Certains publics touchés aussi, qui le sont pas. Et c'est vrai que quand je compare à certaines villes comme Nantes ou Marseille ou Paris par exemple, bon, ou Bruxelles, bon, bah, c'est sûr que je dirais que c'est plutôt la scène alternative de poésie qui est un peu manquante en Bretagne et qui tendrait à se développer pour justement que ça fasse des courants, d'autres courants que ceux de l'édition traditionnelle qui sont importants, mais je pense qu'il y a aussi besoin d'un vivier de gens qui aiment la poésie et qui aiment juste se réunir dans des librairies, dans des cafés, enfin voilà. Donc moi actuellement mon bilan il n'est pas forcément... très bon, mais je le prends à un moment donné aussi, hein. Je pense que ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Et puis par rapport à mes goûts esthétiques qui sont les miens et que des personnes peuvent ne pas partager, mais voilà, je sais qu'il y a quand même un bon sur une poésie, ouais, peut-être un peu plus traditionnelle, je m'entends quand je dis ça, mais en effet peut-être que le sud Finistère par exemple a quand même un grand dynamisme, mais voilà, par exemple, c'est des esthétiques qui, moi, me parlent pas du tout, donc c'est vrai que j'ai du mal à m'y sentir accroché, quoi.
Mais du coup, si on reprend un peu cette idée du paysage de la poésie, est-ce qu'on, comme ça s'est passé d'ailleurs ailleurs, est-ce qu'on ne trouverait pas aussi des niches dans des intersections avec le spectacle vivant et avec l'art contemporain? Je sais que les FRAC sont actifs sur des questions poétiques quand ça touche à des notions de performance parlée. On sait que le spectacle vivant, moi je pense à des compagnies comme Lumière d'Août qui sont ici, des compagnies d'auteurs de théâtre qui sont quand même à cheval sur ces disciplines-là, produisent aussi potentiellement des esthétiques différentes, non?
Alors oui, c'est sûr que le champ de la poésie contemporaine est très très large. Enfin, je pense que c'est une des chances actuellement dans le contemporain et on s'en rend peut-être pas assez compte, mais il y a une diversité qui est vraiment très forte et donc ce qui rend aussi la poésie contemporaine très clanique. Donc les gens se sentent obligés souvent de se situer et surtout de se situer en opposition à, alors que en soi tout pourrait cohabiter sans que ça entraîne de conflits les uns par rapport aux autres, mais il y a la défense de certains précarés, je ne sais pas vraiment pourquoi à vrai dire, alors que pour moi tout s'alimente, et en fait des fois même certains poètes qu'on dit performeurs peuvent écrire des recueils qui peuvent être d'un coup beaucoup plus classiques dans la forme, enfin, en fait il n'y a pas je pense que c'est plutôt des sortes de jalousies qui se créent à cause d'opportunités que peut-être certaines poésies peuvent avoir à certains moments plutôt qu'à d'autres, et puis après des effets de rupture qui sont normaux, en littérature, et donc on se construit quand même beaucoup en opposition dans la littérature, Et bon, d'une certaine manière, c'est normal, ça veut dire qu'au moins, ça reste vivant. C'est vrai que la poésie... Alors moi, ce que j'aime pas, par exemple, actuellement avec la poésie, c'est que tout et rien est de la poésie. C'est-à-dire que j'ai jamais autant vu le terme poétique qu'à l'heure actuelle. Donc, bon, ce qui est bien, parce que ça veut dire que ça rentre un peu dans le champ, mais en même temps, ça galvaude aussi le terme petit à petit. Et à la fin, on ne sait plus tellement bien ce que c'est la poésie. Et donc, après, il y a des histoires institutionnelles aussi qui jouent, mais donc, ce qui fait que on pourrait dire oui. Enfin, moi, je le vois bien par rapport à des sollicitations que je peux avoir, des choses où c'est quand même vraiment du spectacle vivant. Et c'est des choses que nous, par exemple, ici, on soutient moins parce qu'on n'a pas les infrastructures pour le faire et parce que ce n'est pas forcément les identités qu'on veut défendre non plus. Donc c'est là où c'est important d'avoir quand même une ligne et d'essayer de s'y tenir le plus possible. Mais ce que je pensais bien, c'est que la poésie, par contre, c'est un des matériaux qui circule le plus facilement. C'est-à-dire que c'est très très simple, quand on y réfléchit un petit peu, quand on prend un peu le temps, de faire des passerelles avec plein d'autres arts. Et ça, je pense que c'est sa richesse. Et nous, c'est ce qu'on voit dans la construction du projet ici, c'est que les partenaires sont vraiment très nombreux, et pas parce que c'est gratuit, mais vraiment parce que y a moyen de la faire circuler partout. Et ça, je pense que ça rejoint un peu cette question-là, de dire que y a plein de formes qui sont possibles, et c'est à nous de les exploiter toutes, plutôt que de s'enfermer dans une. Et donc ensuite, ça permet de faire des passerelles avec la danse, le cinéma, la musique, le spectacle vivant. Nous, l'année dernière, on a pu faire avec le jeu vidéo aussi. Et c'est pas juste opportuniste, ça. Pour moi, ça fait vraiment du sens. Et c'est ça qui est le plus important. Et après, j'y reviendrai sans doute par rapport au projet. Mais nous aussi, on est très attachés au livre. Donc c'est vrai qu'on parle de là, on part de là, et on essaye de rester ancré à ça, et pas de faire comme si la poésie n'était pas publiée, même si, encore une fois, il faut qu'il y ait de la poésie qui peut n'être que lue, et puis de la poésie qui est éditée aussi. En gros, il faut de tout, quoi.
Du coup, ça m'intéressait, c'est là que je voulais en venir, ça m'intéressait que tu parles des spécificités à la fois du projet de la Maison de Poésie et puis de ton projet, en fait, ici, de deux manières, à la fois cet ancrage sur la question du livre, alors qu'est-ce que ça implique en termes de relations avec la chaîne du livre, éditeur, tu disais qu'ils n'étaient pas non plus très nombreux en Bretagne, en tout cas dans cette région dans cette partie de la Bretagne, mais aussi les libraires, mais aussi donc comment tu travailles avec ces autres espaces-là, d'une part, et puis d'autre part, le conseil d'administration que tu as toi, en fait, aussi impulsé en quelque sorte, et tu me racontais l'autre fois qu'il y avait effectivement aussi toute une génération, même une moyenne d'âge finalement, qui avait d'un coup une pyramide des âges qui avait changé radicalement. Qu'est-ce que ça implique en termes d'esthétique et de discours sur la poésie de réception? Parce que du coup, c'est aussi est-ce que justement la question de se tenir au livre tout en introduisant des nouvelles générations d'auteurs et de praticiens, est-ce que ces deux choses-là arrivent à fonctionner ensemble à une époque où on voit bien que les formes de circulation de la poésie, on n'a pas parlé du numérique, mais sont aussi pris des nouveaux canaux?
Alors moi, quand je suis arrivé ici, quelque chose qui est important, c'est que j'avais pas de projet. Le conseil d'administration, quand il a recruté... quand il m'a recruté, en l'occurrence, ne demandait pas de projet précis pour l'association. Il cherchait juste quelqu'un pour assumer une fonction, disons, qui avait quand même comme mission de construire la programmation artistique, mais sans l'éclairer au moment de l'embauche. Donc, moi, je suis plutôt arrivé avec juste des envies de faire des choses, et ensuite, j'ai essayé de les mettre en œuvre ici avec mes moyens. Donc, des moyens qui sont à la fois des contraintes liées au lieu, liées aux moyens financiers, et puis des envies qui me sont propres, et puis derrière lesquelles j'ai essayé de fédérer des gens. Pour la simple raison que l'association, quand je l'ai reprise, d'un point de vue associatif, n'était pas dans un très bon état. C'est pas un tabou de le dire, je préfère le dire, parce que comme ça permet de montrer où est-ce qu'on en est aussi dans la vie de l'association. Et j'ai un peu dû porter avec ma collègue Lucie Desobliot la structure sur les épaules des salariés, avec l'aide de quelques membres du conseil d'administration, mais on a fait quand même un gros travail de remise à plat et de reconstruction, parce que l'association n'était pas dans un très bon état, associatif encore une fois. Et donc finalement, j'ai eu beaucoup d'autonomie sur le début, et j'ai pu faire des choix que j'ai essayé d'être... encore une fois, en opposition. Je me suis dit, qu'est-ce qui a été fait avant? Et j'ai vu que, même s'il y avait une variété dans les artistes invités sur les années passées, Mais j'ai essayé de me dire, bon, qu'est-ce que je peux proposer d'autre ? Quitte à ce que moi j'arrive, autant que ça soit pas la même chose que ce qu'il y avait avant. Et c'est là où j'ai essayé de me diriger alors, vers des artistes qu'on n'aurait peut-être pas de prime abord pensé voir à la Maison de la Poésie, mais qui en même temps me semblaient intéressants pour le projet artistique qu'on pouvait développer ici. Puis surtout que, je sais pas, pour qu'on vraiment s'incarne comme maison des esthétiques. Et parce que j'ai eu ces coudées franches qui sont relatives, évidemment, quand on prend des décisions, tout le monde ne nous suit pas forcément, mais il y avait une espèce de flottement qui faisait que ça passait, et puis finalement les gens étaient quand même contents, et je pouvais avancer, même si je ne dirais pas que le soutien était unanime au sein du conseil d'administration, mais bon, au moins les choses ont été faites, et je pense qu'elles ont eu du bon. Et grâce à ça, moi, petit à petit, finalement, ça m'a aidé à construire un peu le projet artistique. Et finalement, le projet artistique, je pourrais pas le définir très clairement. Ce qu'on veut faire ici, ça se construit un peu au jour le jour. Ce que j'essaye de faire, c'est de donner le plus possible de la voix à des artistes qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir, mais à ne pas m'y cantonner, parce que c'est quand même très important aussi de faire les passerelles entre les différentes générations d'écriture. Et que je pense que c'est ça qui enrichit les pratiques respectives, parce qu'on, pour ne pas justement rester dans un cercle clos. Ensuite, comme je dis, moi j'ai des goûts à moi, et en fait, la meilleure manière que j'ai de défendre les auteurs qu'on invite, c'est que moi j'aime bien leur travail. Donc j'ai quand même un panel large de choses que j'aime, mais je lis toujours les livres, et si ça me plaît, même si c'est pas forcément... des choses auxquelles j'adhère à 100%, mais si je me dis là il y a une qualité soit esthétique, soit de fond, soit les deux, je me dis ça c'est des choses que j'arriverai à défendre et je me sentirai bien de les présenter, etc. Parce que une des choses les plus importantes que je vois quand même au quotidien ici, c'est le travail de médiation qui est essentiel en poésie, enfin on peut pas s'en passer, sinon c'est toujours les mêmes personnes qui viennent parce qu'ils connaissent déjà ce qu'on est en train de faire. Donc quand on invite quelqu'un, nous, le plus possible, on essaye de faire tout un travail préparatoire avant les invitations pour que les gens, une fois qu'ils sont là, ne se sentent pas perdus ou ne se sentent pas loin de, loin de leurs préoccupations ou quoi. Et moi, ça m'apprend aussi à être très humble par rapport à ce que j'organise, parce qu'il y a des choses qui me semblent évidentes qui, en fait, ne le sont pas du tout. Je me souviens d'une rencontre qu'on avait organisée sur la traduction, qui me semblait passionnante par les invités qu'on avait et par... les auteurs dont il parlait. Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient « Ah ouais, je suis pas venu, ça avait l'air trop pointu, quoi. » Alors que moi, je trouve pas ça pointu, mais je comprends pourquoi des gens puissent le penser. Et donc, moi, ça m'oblige presque plus que les invités à me dire comment est-ce que tous ces artistes-là, je les amène au public, en fait. Et c'est en ça que, par exemple, c'est un peu une mission, parce qu'il y a des... Il y a des choix qui pourraient être faits qui permettent d'amener plus de public. Par exemple, toute la vogue du spectacle vivant, comme les frontières sont plus poreuses, on peut être programmé dans des théâtres, etc. Et au bout d'un moment, on finit par un... Enfin, je ne sais pas, là, pareil, je parle un peu comme ça me vient, et ce n'est pas des choses très définies, mais des fois, j'ai l'impression qu'on perd un peu la poésie, justement, juste au profit du spectacle. Et ça, c'est pas moi. Comme moi, mon attachement initial, il vient du livre, et que je suis pas du tout un public de performance, par exemple, ou de lecture, ou de... j'essaye de pas perdre de vue que, au départ, il y a du texte qui est écrit. Et ce texte peut être publié ou pas, mais je sais pas, c'est la matière textuelle, quoi, qui m'intéresse moi en premier lieu, et donc j'essaye de faire en sorte que ça reste toujours dans un coin de ma tête. Et donc après, au fur et à mesure... pour faire rapidement, au fur et à mesure des projets qu'on a pu faire, des artistes qu'on a pu inviter, il y a en effet une nouvelle génération de personnes qui s'est reconnue dans nos activités et qui s'est dit « Ah bah, en fait, la poésie, ça peut être ça. » Et cet espace, a priori, a l'air de plus m'intéresser qu'il ne m'intéressait avant. La Maison de la Poésie a intéressé toujours à peu près le même nombre de personnes, mais pas les mêmes personnes, en fait. Je dirais que c'est plus ça. Et aujourd'hui, en effet, on a quand même un conseil d'administration qui est assez hétérogène en âge. Les personnes les plus jeunes doivent avoir, 23 ou 24 ans, et les plus anciennes, un peu plus de 70. Donc, je pense qu'on a une moyenne d'âge vraiment qui doit être autour de la trentaine d'années, ce qui est assez rare pour les associations et encore plus en littérature, je pense. Et ce qui est une bonne chose parce que ça permet d'avoir justement un peu ce lien générationnel, voilà, qui est parfois difficile à avoir dans certaines associations de poésie, en effet, où la moyenne d'âge est beaucoup plus âgée, sans caricaturer, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de retraités ou proches retraites dans les associations de poésie, et même si c'est pas toujours le cas, voilà, c'est bien d'avoir une association où ça change un petit peu, quoi.
Et alors, du coup, ces jeunes membres du conseil d'administration, voilà, ils ont quel profil ? Sont des auteurs ? Sont des gens qui viennent d'autres horizons ? Et puis, qu'est-ce que toi tu entends en termes de déplacement ? Tu as parlé de certaines esthétiques, donc en termes de déplacement dans les formes, dans les esthétiques ou même dans le rapport au livre de ces gens qui arrivent aujourd'hui.
Alors, on a justement là actuellement pas beaucoup d'auteurs dans le CA. Je dirais même qu'on en a que un sur donc 12 membres. Et c'est plutôt des personnes, on a des personnes qui font plutôt de la micro-édition, des personnes qui sont plutôt artistes, des personnes qui sont étudiants, universitaires encore, retraités. Bah, en fait, on a un peu de tout. Je dirais que oui, actuellement c'est moins auteur mais plus artiste, donc des gens qui touchent à plein de formes différentes. Et donc ça induit forcément un tout autre rapport à la Maison de la Poésie, puisqu'il y a moins un œil de connaisseur sur la poésie contemporaine. Donc typiquement c'est des gens qui vont déjà être un peu moins lecteurs de poésie, mais ce qui n'est pas un mal, parce que nous on se situe plutôt pour des gens qui commencent à découvrir la poésie, en fait. Les gens qui connaissent déjà la poésie n'ont pas vraiment besoin de nous pour se procurer les livres, pour savoir où acheter, pour... voilà. Ça m'oblige aussi à penser différemment ce que c'est la poésie et comment l'amener au public. J'en reviens à la médiation. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et l'autre question qui était sur le... J'ai un peu oublié sur la programmation.
Sur plutôt les esthétiques qui vont émerger de ces nouvelles attentes. Voilà,
ouais. Alors, je ne sais pas si ça émerge forcément suite au CA, mais c'est vrai que, comme j'en parlais, on a beaucoup plus de propositions transdisciplinaires. Bon, ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi et je trouve que ça marche très bien. D'ailleurs, j'aime bien faire communiquer deux artistes de champs différents et voir un peu ce qui se produit un peu en forme d'expérimentation. Parce que je pense que la poésie, c'est aussi un espace d'expérimentation et en fait, il faut tenter des choses en poésie. Je dirais que ça nous ouvre beaucoup plus là-dessus. Je parlais voilà tous les partenariats possibles avec danse, cinéma, jeux vidéo, musique, etc. Et aussi avoir des profils d'artistes qui sont un peu plus mouvants, c'est-à-dire des gens qui peuvent ponctuellement écrire de la poésie, mais qui font aussi autre chose ou qui n'écrivaient pas du tout de poésie avant et puis qui maintenant se mettent à en écrire. Et ça aide aussi à reconfigurer un peu les profils artistiques. Qui, on le voit bien maintenant, sont beaucoup moins fixes. Même si la poésie, ça reste un genre qui a quand même beaucoup... par exemple, le livre d'artiste, c'est un livre où il y a toujours beaucoup eu de poésie. Donc la poésie, comme je le disais aussi, est un genre qui a beaucoup circulé. Et je pense que c'est ce qui aide à pouvoir faire toutes ces passerelles aujourd'hui. Mais après, dans la programmation, comme c'est encore... Enfin, on construit les résidences grâce à une commission en commun. Enfin, on les construit. On sélectionne les candidats ensemble. Et là, on commence tout juste à faire certains rendez-vous en commun aussi. Donc, ça émerge un peu. Je ne peux pas encore trop m'avancer sur qu'est-ce que ça va modifier. Mais ce que je vois, c'est qu'on essaye aussi d'aller peut-être plus vers du compagnonnage artistique et moins d'être là en tant que prescripteur. Et ensuite, d'avoir des formes qui sont un peu de la poésie hors du livre. De la poésie qui peut être de la musique... des performances qui sont peut-être pas forcément a priori ce qu'on estimerait être de la poésie, mais que nous on pense peut rentrer dans le champ. Donc là c'est encore un peu jeune pour que je puisse dire à quel point ça a des influences. C'est vrai que pour l'instant ça a beaucoup reposé sur Lucie et moi, sur la programmation, mais j'ai l'impression que ça va quand même sur un mouvement collaboratif qui correspond un peu plus à l'identité peut-être du lieu, quoi.
Et peut-être pour finir et pour revenir à cette question du livre, du coup, qu'est-ce que ça implique comme relation avec des pratiques d'édition ? Alors, on va aller plus largement que justement les éditeurs qui se auto-définissent comme éditeurs de poésie, mais plutôt, là, tu as parlé de la micro-édition, l'édition d'artistes. J'ai l'impression qu'effectivement, le champ de la poésie a gagné aussi beaucoup aux pratiques d'édition des artistes eux-mêmes.
Ouais, tout à fait. Alors, moi, c'était pareil. Il y a un champ que je ne connaissais pas du tout en arrivant ici et que je trouve passionnant. Celui de la micro-édition, qui est encore une fois, comme la poésie, très large dans ses composantes, qui peut aller du fanzine à de la simili-édition de littérature, en fait. Et Bah, c'est juste que ça permet d'ouvrir des espaces. Alors, je ne saurais pas très bien les définir, ces espaces-là, ces espaces d'écriture, ces espaces de publication. Mais je vois bien le... en fait, tout le vivier que ça engendre. Et la poésie est encore un des genres qui se construit beaucoup par les revues. Il y en a plein actuellement et il y en a plein de super qualité en plus. Et je trouve que ça fait... la poésie, c'est encore un genre où on peut circuler un peu à travers différents formats d'édition. C'est-à-dire, on peut commencer à bidouiller dans de la micro-édition, un peu comme, je sais pas, on ferait des bouts de code sur son ordi juste comme ça pour tester. Et en fait, on peut ensuite, certains textes qui sont un peu plus aboutis, les envoyer des revues. Et ensuite, à force d'être repéré dans des revues, on peut avoir un recueil et se décider à l'envoyer à des maisons d'édition. Et je trouve que c'est encore un des genres où il y a vraiment une progression vertueuse de tout ça. Bon, il y a aussi le numérique, en effet, qui a un peu accéléré ça, mais qui, en fait, a juste permis, encore une fois, d'autres espaces d'écriture. Et ben, moi, c'est ça que je trouve super, c'est plutôt d'avoir toute cette richesse-là qui ne se cantonne pas aux maisons d'édition traditionnelles et qui, en même temps, arrive à faire des choses de qualité. Actuellement, je dirais plutôt le défaut de la poésie, c'est que tout le monde en écrit, mais en plus, tout le monde veut en éditer. Et ben, en fait, tout le monde en auto-édite. Et ce qui fait que il y a pas du tout de positionnement, de jugement sur le travail qui est fait. Donc c'est vrai que c'est un genre qui souffre quand même beaucoup de l'auto-édition et de... en fait, c'est quoi la poésie qui mérite d'être publiée, celle non, enfin, qui est quand même un critère de valeur sur certaines choses. Mais aujourd'hui, il y a tellement de maisons différentes qui publient tellement de trucs différents que je pense... enfin, il y a forcément, si le travail est de bonne qualité, il y a forcément une maison qui publiera à un moment ou un autre ce qu'on écrit. Et si ce n'est pas le cas, bah, y a plein de formats alternatifs. Et je pense vraiment aux fanzines et à la micro-édition qui sont parfois des formats qui ont plus de succès que des livres édités traditionnellement parce qu'ils se diffusent à des prix qui sont très bas, voire gratuitement, qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Il y a moins cette barrière symbolique du livre aussi. Et voilà. Et je pense que donc, du coup, c'est une très bonne chose que ça reste. Et nous, on essaye de la soutenir un peu avec nos moyens, encore une fois, ici, quoi.
Et du coup, le segment, tu parlais en fait de, voilà, de ces segments courts d'édition, ils sont aussi associés à un autre type de mode de partage qui est le salon en fait des micro-éditions. Bon, la micro-édition existe presque pour l'essentiel autour des salons et même beaucoup d'éditeurs qui étaient pas si micro que ça avec la situation de la librairie ont vraiment investi très massivement en fait les pratiques de salon. Moi j'ai vu les chiffres des éditions adverses par exemple que je découvrais où ils ont 70% de leurs livres vendus sous des formes de salon et donc le Covid avait évidemment eu un impact assez fort là-dessus. Mais justement, comment la maison se situe par rapport à ses possibilités de soutien aussi à l'endroit de ces formes que sont les salons de la micro-édition?
Ben là, c'est vrai que nous, c'est le premier qu'on organise, donc le 3 juillet. Donc on va voir un peu. Mais en effet, oui, on le voit, ben voilà, le marché de la poésie, c'est un marché et c'est un salon en fait. Et donc on va dire l'événement phare de la poésie en France, c'est un salon. C'est pas un endroit. Il y a des rencontres, mais qui sont parallèles en fait au salon. Et c'est plutôt un moment de convivialité sur place et de vente donc. Et nous, c'est vrai que le salon qu'on a prévu ici, on veut moins le faire de manière purement lié à la vente, parce que bon, déjà il y a beaucoup de micro-éditions qui ne se vendent pas ou alors à des tout petits prix, mais plutôt comme un endroit. Voilà, je parlais du fait qu'à Rennes, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui connaissent non plus la poésie. Donc en fait, on l'a construit à la fois comme un endroit où les gens pourront fabriquer leurs propres livres avec des petits moyens et avoir en regard ben, ce que c'est une maison de micro-édition par rapport à ce qu'eux ont fait. Et donc il y a différentes maisons qui seront invitées, qui proposeront des ateliers. Bah, qui s'inspirent un peu de leurs livres à eux. Et ce qui permet de faire du lien aussi entre les formats de fabrication. Je parlais de bidouille tout à l'heure, mais je pense vraiment à quelque chose comme ça, quelque chose de plus immédiat, de plus accessible, qui crée moins voilà, cette pyramide symbolique de « nous, on est éditeur et vous, vous êtes lecteur ». Et donc nous, on l'a plutôt fait comme ça. Et je sais que nous, on essaye aussi d'en avoir dans notre bibliothèque, de la micro-édition, alors plutôt rennaise. Et donc, quand il y a des projets, je pense à des projets d'étudiants des Beaux-Arts ou des projets associatifs qui nous viennent, bah on essaie de les intégrer dans notre bibliothèque et de les valoriser aussi, parce que pour nous, ça fait partie de la chaîne. Et je parlais des mouvements alternatifs. Bah voilà, si on veut des mouvements alternatifs à Rennes sur la poésie, il faut soutenir la micro-édition, il faut l'accueillir dans des lieux un peu plus structurés et il faut la donner à voir. Et en l'occurrence, bon, on n'est pas les premiers, il y a plein de petits salons de micro-édition qui s'organisent un peu partout et qui réunissent quand même beaucoup de gens systématiquement. Donc là, nous, on voulait vraiment avoir cet aspect atelier en plus, qui nous semble important, et qu'on essaye voilà, de relier à un moment qui est censé être plus de la vente, mais qu'on essaye d'être juste un moment convivial et participatif.
Peut-être nous présente peut-être la...
Oui, bien sûr.
La bibliothèque, comment vous travaillez, pour vos acquisitions, voilà, comment c'est un peu...
Alors... Donc c'est une bibliothèque associative, voilà, qu'on construit vraiment avec nos moyens, encore une fois. C'est une bibliothèque qui a environ 3000 références, à la fois de la poésie francophone, de la poésie en langue étrangère traduite, des revues, des anthologies, de la poésie pour enfants et un peu de livres d'artistes. Donc voilà, on essaye d'avoir un panel le plus large possible. C'est une, pareil, c'est une bibliothèque qui est perpétuellement en construction, dans le fond, et qu'on essaye de faire la plus proche de ce qu'est la poésie actuellement, donc on peut trouver vraiment des trucs très différents dedans. Pour les acquisitions, on a la chance d'avoir, enfin la chance, on a fait le choix d'avoir une enveloppe annuelle budgétaire pour pouvoir acheter des livres, parce qu'on a des envois presse, mais pas tant que ça, donc en fait, on doit beaucoup en acheter. Puis je pense que c'est bien aussi pour une association comme la nôtre de se responsabiliser vis-à-vis de la chaîne du livre et d'acheter les livres qu'ensuite elle fait circuler. Donc on avait un partenariat jusqu'à janvier avec La Nuit des Temps, la librairie de Rennes. Et maintenant, depuis janvier, on est en partenariat avec Le Silence de la Mer, une librairie de Vannes, avec qui on discute pour chaque mois faire une acquisition d'environ 10 livres de poésie, des choses récentes, et puis s'il n'y a pas de choses récentes qui nous intéressent, de choses du fond. Et ensuite, en termes, donc la bibliothèque, tous les livres sont consultables sur place, voilà, et empruntables sur adhésion. Et on est sur un système très souple, enfin, on n'a pas de cote. Donc de toute façon, les gens qui empruntent ici, ils font beaucoup sur conseil. Donc généralement, on voit les livres qui bougent. Et voilà, et donc du coup, on arrive à faire tourner 10% du fonds chaque année, ce qui est bien, surtout vu les années qu'on a eues. Donc ça veut dire que voilà, on a quand même un mouvement des livres qui est assez régulier, qui est une bonne chose. Et sinon, après, la pièce en elle-même peut servir de salle de lecture, de salle de travail. C'est là qu'on organise les ateliers d'écriture aussi. C'est une salle qu'on essaye de faire, de construire petit à petit, parce que pareil, on revient un peu de loin sur cette salle-là, mais qu'on essaye de faire un peu conviviale, mais en même temps modulable en fonction des activités qu'on a. Et voilà ce que je peux en dire à l'heure actuelle. Donc là, juste à côté. Alors la maison de la poésie, comme je disais, c'est une villa. Donc en fait, on a tous les défauts d'une maison personnelle, c'est-à-dire qu'elle est très cloisonnée et plein de petites pièces, et en plus d'une vieille maison personnelle. Donc les espaces, on essaie de se les approprier, mais il y a aussi plein de contraintes. Bon, là, par exemple, vous voyez une cheminée qui en fait prend énormément de place, donc elle est cool, mais en fait, elle est bon. C'est cool dans une certaine mesure, quoi. Donc cet espace-ci, c'est l'atelier, qui est une pièce qu'on a juste commencé à faire depuis l'année dernière, juste avant le confinement. Donc pareil, elle est en cours de montage, et nous, on se positionne là vraiment sur la micro-édition. Donc on n'aura pas de sérigraphie, pas de choses comme ça. Nous, c'est vraiment la micro-édition photocopiée ou imprimée, et puis après des petits moyens de graphisme, comme il y a une petite presse à linogravure qu'on a construite nous-mêmes derrière. On va bientôt acquérir un massicot. Donc nous, c'est vraiment c'est du format pauvre et essentiellement concentré sur le texte, pas sur l'image, même s'il peut y avoir des images, mais pas imprimées en couleur, enfin voilà. Donc voilà, donc ça, c'est un espace qui, même s'il est récent, en fait marche plutôt bien, et c'est devenu un peu un cœur de maison quand même, cet espace là et on a pas mal de projets, nous, de petits formats et tout ça. Donc c'est une pièce qui est récente, mais qui, je pense, va devenir un endroit vivant de la maison dans les temps à venir. Et ça nous permet de faire des projets aussi pour les scolaires, par exemple, des revues pour les scolaires, etc. Donc c'est assez pratique. Donc là, on est dans le sas d'entrée qui dessert un peu tout. qui est assez contiguë. Donc c'est vrai que quand on entre, on a un peu cette impression, on voit cette immense maison dehors, et quand on entre, on est un peu pris dans une étroitesse. Donc il dessert juste des pièces utilitaires. Alors bah, notamment la cuisine qui est au bout, je vais commencer par la cuisine qui est tout au bout, voilà, qui est l'ancienne cuisine de la maison, et qui nous sert bah, pour tout ce qui est associatif, pareil. Donc c'est une cuisine utilitaire, elle a rien de particulier. Qui donne ensuite sur une véranda dont on se sert comme d'une serre, puisqu'on a un potager qu'on montrera quand on ira dans le jardin. Et donc, en fait, elle n'avait pas vraiment de fonction, et pareil, elle est assez étroite, donc c'est dur de lui en trouver une, à part celle d'une serre. Donc voilà, et elle communique avec le jardin, donc c'est pratique à partir de la cuisine. Donc là, il y a une autre pièce dans laquelle on ne va pas rentrer, qui est donc le local de l'association La Balade des Livres, que je mentionnais tout à l'heure, voilà, qui est leur local de travail et de dépôt. Donc un local tout banal. Et maintenant, on va monter au premier étage. Alors donc là, on est dans l'appartement de résidence, qui est un appartement qui fait 40 mètres carrés, je crois, et qui est l'appartement où on accueille les artistes de notre programmation ou d'autres structures si l'appartement est libre et si elles en ont besoin. Donc c'est pareil, c'est un appartement qu'on essaye un peu d'aménager au fur et à mesure du temps avec nos moyens, qui a une petite partie salon, une petite partie cuisine, une chambre et une salle de bain. Donc voilà, ça reste quand même un espace très bien à avoir dans notre association, parce que c'est très pratique d'avoir les artistes sur place, et en plus, en termes de coût, c'est très avantageux. Donc pareil, c'est un endroit qu'on aménage petit à petit. Alors c'est vrai que, en fait, quand je dis qu'on aménage les choses, c'est parce que y a eu des choix, on le voit bien, des choix esthétiques ou mobiliers qui ont été faits par soit la ville, soit nos prédécesseurs, qui n'ont pas forcément très bien vieilli, disons. Et on essaye un peu d'en revenir, mais y a des choses qu'on peut pas faire nous-mêmes. Donc comme je disais, on joue un peu avec les défauts de la maison. Ça fait partie pour l'instant du deal, quoi. La maison est cool, mais elle pourrait être mieux si la ville faisait un peu plus le taf, quoi. Puis voilà, nous on a pas beaucoup de temps à y consacrer non plus, donc voilà. Et la dernière pièce, qui est tout simplement nos bureaux, en fait. Donc tout simplement le bureau. Alors pareil, ça a été pas mal reconfiguré, parce qu'avant on était au rez-de-chaussée, là où il y a l'atelier, mais comme c'est un couloir, c'était très très désagréable de travailler dans un espace où tout le monde passe en permanence derrière son dos. Donc en fait, ça c'était une pièce qui servait de débarras essentiellement, et en fait on a tout rangé, on a tout donné, et nous on s'est rapatrié ici, ce qui est plus pratique. Ce qui est plus pratique pour bosser, on est plus calme, et puis c'est plus en lien avec les artistes aussi, juste à côté, donc c'est cool. Et là, on commence vraiment à trouver aussi une stabilité dans l'aménagement des espaces et la circulation du public à l'intérieur. Et donc c'est plus serein aussi pour nous pour bosser, et pour les artistes pour être là aussi. Donc voilà, mais ça reste un bureau très classique. Là on est dans le jardin, qui est, on va dire, c'est quand même le gros point fort de ce lieu, hein, c'est le jardin. Alors malheureusement, même en été maintenant, on n'a plus la chance d'avoir du beau temps, donc ça devient un peu compliqué, mais c'est clair que c'est l'endroit où nous les événements on n'en organise pas ici à la saison, à part l'été, parce qu'on peut les faire dans le jardin. Donc c'est un espace qui est... Bon, c'est pareil, c'est un espace qui est un peu bizarre, parce qu'il a beaucoup changé depuis ces 3 dernières années. C'était un espace qui était essentiellement entretenu comme un jardin particulier. Jusqu'à il y a 3 ans, en fait, il y avait des haies qui entouraient absolument tout le jardin. Donc la maison n'était pas du tout visible de l'extérieur. Et les gens n'osaient pas rentrer, ils n'osaient pas venir parce qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait. Donc on a fait aussi un travail pour essayer de rendre un peu plus transparent le jardin. Et on a eu beaucoup de travaux aussi, parce qu'il y a eu un square qui a été fait juste à côté. Et donc, ils ont fait une barrière mitoyenne pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Et le jardin a été pas mal bousculé, il y a eu des arbres qui ont été enlevés, enfin bref. Donc pareil, c'est un peu une période de transition pour lui. Donc là, c'est l'espace principal qui nous sert d'espace plateau, en fait, quand on a des événements. Voilà, qui est juste de la pelouse. Ici, on a l'espace potager, qui est un potager associatif, et qu'on a initié il y a 2 ans avec la ferme Permagraine. C'est les étudiants de la ferme qui sont venus faire tout un projet de jardin, en fait, dont le mandala. Et voilà, donc c'est un potager qu'on entretient surtout Lucie et moi, en fait. Et puis après, certains bénévoles, quand ils passent, qui sont motivés. Voilà. Et on cultive quelques trucs. Enfin, c'est vraiment... c'est pas symbolique, mais clairement, on se nourrit pas avec ça. Mais c'est cool de faire ça et ça nous fait plaisir, quoi. Puis ça fait un espace différent dans le jardin. Et donc là, c'est pareil. Là-bas, c'est un espace qui est pas encore déterminé, qui est juste un espace de stationnement. Et voilà, en gros, le jardin, qui est un espace qu'on essaye aussi de faire le plus libre possible, c'est-à-dire qu'on essaye d'être pas trop interventionniste sur ce qui est dedans et tout ça. On laisse beaucoup de plantes sauvages pousser toutes seules. Et qui est un espace qui va évoluer avec le temps aussi pour justement aller vers le projet que la ferme, que les étudiants de la ferme Permagraine nous ont élaboré. Voilà. Puis donc tout autour, avant la maison, il y a 3 ans, ouais, 4 ans même, dans les immeubles datent quand même de peut-être 5 ou 6 ans, mais c'était une friche en fait, et la maison était vraiment isolée. Enfin, il y a quelques années, les gens qui venaient ici avaient vraiment l'impression d'être en campagne parce qu'il n'y avait rien autour. Et maintenant, c'est un quartier où ça se construit énormément et où maintenant on est plutôt au cœur de ville. Alors qu'avant on était en pleine campagne, maintenant on est au cœur de ville. Donc il va falloir aussi nous composer avec tous ces nouveaux publics qui vont arriver autour et qui rendent la maison un peu incongrue à cet endroit-là, entourée d'immeubles. Donc il faut qu'on trouve notre place aussi dans cette nouvelle configuration. Voilà un peu ce que je peux dire sur la maison.